Décryptage, Marie Cazadebé.
Une amende à 10 chiffres, 3,7 milliards d'euros. Jamais la justice n'avait prononcé une telle peine dans une affaire d'évasion fiscale. Ça s'est passé hier. Devant le tribunal correctionnel de Paris, la banque suisse UBS, la première banque privée du monde, était condamnée pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Maître Chemla est l'un des avocats des anciens cadres poursuivis.
C'est effectivement une déception. Beaucoup de nos arguments n'ont pas été entendus. Certains l'ont été. On a eu le droit à un résumé qui, pour l'instant, ne fait état d'aucun fait précis. Nous allons revoir la motivation du tribunal, mais je vous annonce que nous venons d'interjeter appel de la décision aussi bien sur le pénal que sur les intérêts civils.
Voilà. Entre 2004 et 2012, des milliers de contribuables français ont ainsi pu échapper au fisc. Mais comment la banque a-t-elle pu agir si longtemps sans être inquiétée? Une telle condamnation pourra-t-elle faire bouger les lignes quand, rien qu'en France, la fraude fiscale représente près de 100 milliards d'euros de pertes sèches chaque année? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Valérie de Senneville.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes grand reporter au quotidien français d'information économique Les Échos. Vous avez suivi ce procès UBS et nous sommes en ligne avec Éric Vernier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur et vous avez publié « Fraude fiscale et paradis fiscaux quand l'exception devient la règle » aux éditions Dunod. Alors concernant UBS, le parquet national financier parle d'un système frauduleux d'une ampleur exceptionnelle. Valérie de Senneville, en quoi consistait le système qui coûte aussi cher aujourd'hui à la banque suisse ?
Alors le système que la banque conteste, hein, elle dit qu'elle n'a pas mis en place ce système. Ce que l'enquête révèle, c'est que la banque suisse UBS AG envoyait des commerciaux en France pour démarcher de riches clients français. Il y a même un ex-cadre de la banque qui, pendant l'enquête, avait parlé de ratissage nauséabond de la part des Suisses. Il s'est rétracté au cours de l'audience, mais en fait, il l'avait bien dit au cours de l'enquête.
Alors, on en sait un peu plus d'ailleurs sur la technique justement, alors de ratissage, même si le nom donc a été démenti, sur cette technique justement pour repérer aussi ces riches Français. Quelles étaient ces techniques?
Alors, c'était à l'occasion d'events, il appelait ça event. Alors, ça peut être Roland Garros, ça peut être un lieu festif, un festival, etc., où la banque française invitait ses clients, des chasses aussi, invitait ses clients, et heureux hasard, tiens donc, il y avait aussi des commerciaux suisses à ces événements.
Éric Vernier, qu'est-ce qui est illégal finalement dans cette affaire? Est-ce que placer son argent dans une banque à l'étranger est illégal? Qu'est-ce qui finalement était répréhensible dans cette démarche?
Alors, il y avait plusieurs choses qui posaient problème. Placer son argent à l'étranger n'est pas illégal à partir du moment où on le déclare en France, ce qui n'était pas le cas ici. Donc la première des fraudes, c'était une fraude fiscale de la part de ses clients français qui déposaient l'argent sur des comptes suisses non déclarés aux autorités françaises. Et l'autre problème directement lié à la banque dès le départ et qui vient d'être évoqué, c'était un démarchage illégal de la part de salariés suisses de la banque vers des clients français. Alors il y avait tout un montage qui masquait un petit peu cette opération, mais au final c'était cela. En tout cas, les juges ont considéré que c'était bien un démarchage illégal de la Suisse vers la France. Donc on a ces deux fraudes en quelque sorte, donc démarchage illégal et fraude fiscale et blanchiment aggravé de fraude fiscale, ce qui est quand même assez exceptionnel, puisqu'on considère que ce blanchiment a été effectué en bande organisée. Donc on considère en quelque sorte que les salariés du BS étaient une bande de criminels.
Valérie de Senneville.
Oui, la banque UBS n'est pas poursuivie pour fraude fiscale. Elle est poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale.
Finalement, ces riches français, Valérie de Senneville, donc ils ont placé de l'argent en Suisse, ils ne l'ont pas déclaré au fisc, mais est-ce que UBS Suisse était au courant que cet argent n'avait pas été déclaré? Et est-ce que ça n'a pas participé justement à la ligne de défense des accusés?
Alors, c'est un des cadres dirigeants d'UBS qui a eu cette phrase qui veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire En gros, on pouvait pas ignorer que forcément il y a des clients qu'il faudrait, mais on ne savait pas. En gros, ils ne demandaient rien. Aujourd'hui, ça a changé. Hein. Ils sont obligés de demander si le compte a été est déclaré en France ou pas. Donc, toute la question du démarchage et toute la question de la mise en cause d'UBS, c'est-à-dire est-ce que UBS a aidé ses clients à frauder le fisc. C'est bien ça le vrai sujet, le blanchiment de fraude fiscale. Est-ce que les commerciaux venant en France, démarchant leurs clients, leur ont dit à un moment donné, venez donc chez nous et en plus vous pourrez pas déclarer parce que on a des comptes numérotés, on a des boîtes aux lettres, vous inquiétez pas, tout sera
en leur présentant tous les avantages qui leur permettaient de ne pas déclarer cet argent.
Exactement. Alors UBS bien sûr conteste cette vision des choses. Mais il n'empêche, ce qui est intéressant dans la décision rendue hier, c'est que justement, ce qui permet à UBS de contester ça, c'est de dire il n'y a pas de preuve. Trouvez-moi le nom d'un fraudeur. Vous n'avez donné aucun nom de client, etc. Or, ce qui avait été retenu au cours de l'enquête et ce que le tribunal retient et ce qui est une vraie révolution, c'est un système mis en place. En gros, il dit à UBS et peu importe que on ne rentre pas dans le détail de la fraude, nous démontrons que vous avez mis en place un système qui permettait à des contribuables français de frauder.
Éric Vernier, Valérie de Senneville l'a évoqué, mais ces riches français, ces clients, avaient intérêt à placer leur argent en Suisse. Le système bancaire leur était plutôt favorable. Quel était l'intérêt à ce moment-là pour eux de suivre UBS Suisse dans son invitation?
Alors c'est assez simple, mais je voudrais compléter d'abord ce qui vient d'être dit. Effectivement, la banque est donc bien poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale. Donc, on considère, en tout cas le juge considère, que la banque allait au-delà d'aider à frauder le fisc, puisque le blanchiment, c'est cacher l'origine des fonds, et notamment l'origine de la fraude. Donc, en fait, on reproche d'avoir aidé les clients, non seulement à cacher l'argent, mais à pouvoir le réutiliser de manière quasi normale, et donc c'est là qu'on peut évoquer le blanchiment. Alors, pour l'intérêt de ces clients, c'est tout simplement de gagner de l'argent sur l'économie fiscale, tout simplement, et notamment sur feu l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais aussi des impôts sur le revenu, des taxes directes, indirectes, des droits de succession. Toutes les causes sont possibles, puisqu'on peut frauder à peu près tous les impôts, et pour ces riches clients, c'était le but recherché.
Alors au final, donc une amende record et la satisfaction du sénateur communiste Éric Bocquet, ancien rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale.
C'est un montant considérable pour une affaire de ce genre et je crois que ça va marquer quand même. C'est un signal fort qui est envoyé. L'innovation financière est toujours à l'œuvre et il y a toujours des parades rapidement trouvées par rapport aux décisions de justice, y compris parfois. Donc là, la banque va faire appel, bien sûr. Mais pour autant, ça marque un coup fort par rapport à ces affaires de fraude fiscale qui n'étaient pas jusque-là prises, selon moi, à la hauteur qu'il fallait. Il est très bon que la justice s'en mêle au nom de l'intérêt général. Il y a encore de grosses batailles à mener, c'est évident, mais ça peut effectivement peut-être calmer certaines ardeurs et pour la suite, quoi.
Valérie de Senneville, à quoi correspond ce montant? Alors, je l'ai dit, hein, 10 chiffres, j'ai eu du mal à me rendre compte de l'ampleur de cette somme. 3,7 milliards d'euros, comment a été calculée cette somme-là, à laquelle il faut ajouter donc 800 millions d'euros de dommages et intérêts pour l'État français?
Alors, c'est toute la question, parce que, effectivement, comme il y a eu un problème d'estimation tout au long de l'enquête. Parce que contrairement à d'autres histoires de blanchiment de fraude fiscale, comme celle de la banque HSBC, on n'avait pas de liste de fraudeurs. Enfin, les enquêteurs n'avaient pas de liste de fraudeurs. Donc, comment calculer on appelle ça les avoirs éludés, donc les avoirs qui n'étaient pas déclarés. Alors, pendant l'enquête, les juges d'instruction ont bénéficié de révélations en Allemagne, qui donnaient des chiffres aux alentours de 10 milliards de mémoires, etc. Donc, ils se sont basés sur ce chiffre-là. Mais le parquet national financier, qui a été suivi en cela par le tribunal, a choisi un autre calcul. Il a dit, en gros, aujourd'hui, il y a auprès de la cellule de dégrisement de Bercy, c'est-à-dire là où les gens qui avaient fraudé un temps et sont venus comme des repentis, en fait, 3,7 milliards venaient d'avoir non déclarés d'UBS. Ça, c'était sûr. Ils avaient leur compte à l'UBS en Suisse. Et donc, ça, ils étaient certains de ce chiffre. Et ils disent, par application d'un autre article du Code pénal, on peut multiplier ça et en faire une somme de 9 milliards. Mais en gros, comme on est gentil, on va pas vous condamner à 9 milliards, mais on vous condamne à 3,7 milliards.
Alors, Éric Bernier, c'est aussi toute la spécificité de ce parquet national financier, ou en tout cas de cette affaire. On peut négocier le montant de l'amende, ce que n'a pas fait d'ailleurs UBS. En tout cas, ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Mais comment expliquer qu'il y ait des peines négociées?
Eh bien,
Éric Bernier, pardon.
C'est justement ce qui avait été étonnant, puisque UBS avait refusé de la négociation. Je crois qu'ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se sont dit on va aller jusqu'au procès, on le gagnera, et puis si on ne le gagne pas, on fera appel, ce qu'ils vont faire d'ailleurs, enfin ce qu'ils ont déjà fait aujourd'hui. Donc l'affaire n'est toujours pas finie, il va y avoir des rebondissements. Mais la négociation, effectivement, c'est quelque chose que le gouvernement français veut mettre de plus en plus en place sur le modèle américain. Moi, ce que je reproche depuis le début, je suis pour qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au procès. Et effectivement, ce procès montre qu'on a intérêt à y aller, puisque l'amende est beaucoup plus forte que ce qui avait été négocié au départ avec UBS à Vertu.
Et alors, l'intérêt d'une amende aussi énorme, on entendait le sénateur Éric Bocquet espérer que cela calmerait certaines ardeurs. Est-ce que, Éric Vernier, vous pensez que ça peut avoir un impact sur le comportement des banques, qui pourraient craindre, justement, un jour aussi d'avoir affaire à la justice et de devoir payer une telle somme?
Alors, je pense que c'est un signal très fort. J'ai rappelé à Éric Bocquet, justement, hier, que ça n'était pas fini, qu'on n'y était pas, mais c'est un signal très fort. Et je rappelle que 90% des banques européennes, des grandes banques européennes, ont été sanctionnées pour blanchiment et ont payé des amendes. Donc, effectivement, les choses évoluent. Malheureusement, on a toujours autant de problèmes de fraude fiscale, de blanchiment avec les banques, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'argent sale, notamment dans les banques dans le monde, et notamment dans les banques dans les paradis fiscaux. Et donc, je crois que malheureusement, à chaque grande affaire, on se dit, oui, mais ça, c'était le passé, c'est terminé. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit sur UBS, on dit que c'était les habitudes d'avant la crise, etc. Mais finalement, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces affaires, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a de nouvelles affaires qui apparaissent, avec de nouvelles techniques, avec de nouveaux montages. J'espère que là, c'est un signal très très fort, parce qu'effectivement, 4,5 milliards, c'est plus que le bénéfice de la banque cette année, enfin en 2018. Donc c'est peut-être effectivement un petit peu le début de la fin, mais ça prendra du temps de toute façon.
Valérie de Senneville le disait tout à l'heure, finalement, aujourd'hui, cette affaire ne pourrait pas avoir lieu. Dites-moi si je me trompe, mais est-ce que UBS Suisse pourrait proposer des conditions aussi favorables aujourd'hui à de riches clients? La législation a évolué.
Alors, ce serait difficile depuis la Suisse, mais UBS n'est pas qu'en Suisse. On oublie que ces banques ne sont pas que dans un seul pays. Et ce qui s'est passé en Suisse à une époque se fait aujourd'hui dans d'autres pays. Alors, on a eu Singapour et Hong Kong. Maintenant, on a des pays du Moyen-Orient. On a d'autres paradis fiscaux qui s'épanouissent à travers le monde, comme l'île Maurice ou les îles Caïmans. Donc, le problème, c'est que ce qui ne se fait plus à un endroit peut se faire faire ailleurs et peut profiter à certains milliardaires ou multinationales.
Alors, et la France dans tout ça, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est un refrain pour les présidents, comme François Hollande en avril 2016, juste après la mise au jour des Panama Papers.
La lutte contre la corruption, la lutte contre la finance illégale, la lutte contre des phénomènes de blanchiment d'argent, c'est ce que fait la France depuis 4 ans. Elle ne le fait pas seule, heureusement. Les pays nous accompagnent, mais ça donne des résultats. Ça donne des résultats pour lutter contre la fraude fiscale. Ça donne des résultats pour lutter contre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et surtout, ça donne des résultats en matière de transparence.
Éric Vernier, comment se situe la France en matière de lutte contre l'évasion fiscale? Parce que cette affaire est finalement est directement liée à la filiale France du BS.
Voilà, la France se situe dans une bonne moyenne, c'est-à-dire qu'elle fait son travail, pas trop de zèle, mais elle se place mieux que la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, évidemment. Le problème dans tout cela, c'est que, encore une fois, cette affaire n'a existé que parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte. S'il n'y avait pas eu les lanceurs d'alerte, on n'aurait jamais eu cette affaire. Et malheureusement, avec la loi sur le secret des affaires, je crains que l'avenir ne soit pas si rose que ce que nous sommes en train de claironner depuis que la sanction est tombée.
Alors Valérie de Senneville, justement, on a évoqué les Panama Papers. L'affaire UBS aussi est sortie grâce à des lanceurs d'alerte. Qui étaient-ils?
Alors, c'était des salariés de UBS France qui avaient vu se dérouler ces events. Stéphanie Gibault était celle qui était chargée, entre autres, d'organiser ces events. Il y avait Nicolas Forissier, aux États-Unis, Brad Birkenfeld. En fait, il faut savoir qu'UBS, j'allais dire, n'en est pas à son coup d'essai quand même. Hein. UBS a déjà négocié aux États-Unis, a négocié en Allemagne et
pour des pratiques
d'évasion fiscale.
Ouais.
Donc voilà, et il a tenté de négocier en France ils ont pas refusé de négocier. Ce qu'ils ont refusé, c'était la somme qui était demandée par le PNF. Voilà.
Donc ces lanceurs d'alerte finalement savaient que cette technique, cette pratique était possible en tout cas dans leur banque.
Ah oui.
Et donc c'est eux qui ont révélé justement ces pratiques-là. Ils ont pris leur courage à deux mains et raconté ce qu'ils voyaient.
Au tout départ de l'affaire, il y a quand même des commerciaux français qui sont commencés à se dire les Suisses, ils sont bien gentils, mais ils sont en train de nous piquer nos clients.
Oui.
Voilà. Donc, comme a dit un des ex-cadres d'UBS pendant l'audience, je trouvais ça très fort, il a dit « on est dans un monde d'argent, c'est la guerre ». Donc, certains ont commencé à arriver dans les brancards, et puis il y a eu les lanceurs d'alerte qui ont dit stop, quoi. Faut arrêter.
Alors, pour conclure cette émission, si jamais cette peine était confirmée, donc en appel, Valérie de Senneville, quelles seraient les conséquences pour UBS? On a parlé de plus de 4 milliards et demi d'euros.
Alors. D'abord, il y a 2 ans avant l'appel. L'appel est suspensif, donc c'est-à-dire que ils n'ont pas à payer cette somme tant qu'elle n'est pas consolidée, confirmée par la cour d'appel. Et par ailleurs, il y a d'autres conséquences qui peuvent être très importantes pour UBS, c'est que les États-Unis ne veulent pas que des banques qui ont été condamnées au pénal exercent sur leur territoire. Ça veut dire que le marché américain serait fermé à UBS, ce qui est énorme.
Ça veut dire de vraies conséquences donc pour les affaires d'UBS. Merci beaucoup Valérie de Senneville, grand reporter au journal Les Échos. Merci Éric Vernier, je rappelle le nom de votre ouvrage, Fraude fiscale et paradis fiscaux, quand l'exception devient la règle, aux éditions Dunod. Et merci à Donatien Cahut d'avoir été à la réalisation. Tout de suite, le journal Afrique.